On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Qu'ils aient été impatients ou stressés ce matin à commencer la rentrée des classes pour quelques 12 millions d'élèves dans des conditions particulières, même si à bien des égards le constat semble récurrent d'année en année, école sous tension, pénurie d'enseignants, contraintes budgétaires, nous serons dans un collège de Rhin-et-Loire dès le début du journal et puis avec notre invité on se demandera qui veut encore être prof aujourd'hui. On parlera également réduction des dépenses publiques et en particulier des arrêts maladie, objet de dérive selon le gouvernement. L'actualité à l'étranger cette fois-ci, c'est notamment ce séisme qui a frappé la nuit dernière l'Afghanistan, avec désormais cette question, qui pour venir en aide au régime des talibans? Et puis on se rendra en Chine, où les plus grands autocrates de la planète entendent promouvoir un nouvel ordre mondial. Pénurie d'enseignants, pression budgétaire, incertitude gouvernementale, au point d'ailleurs que dès lundi prochain, la France pourrait carrément être dépourvue de ministre de l'Éducation. Cette année, plus que jamais, la rentrée rime décidément avec danger, même le risque de voir s'abattre la foudre a conduit les autorités académiques des Bouches-du-Rhône et du Var dans une décision rarissime à reporter le retour en classe des élèves de 24 heures. Pas franchement de quoi rassurer donc les 12 millions d'écoliers, collégiens et lycéens appelés à reprendre le chemin de l'école, pas plus sans doute d'ailleurs que leurs parents ou leurs professeurs. On va y revenir dans un instant. Et pour commencer, direction le collège REP Marcel Pagnol à Vernouay, dans l'Eure-et-Loire, où Hakim Kasmi a assisté ce matin à la rentrée des élèves de 6e.
Vous pouvez dire bonjour.
Bonjour.
Une fois installés, les élèves de 6e commencent par découvrir le fonctionnement du collège, qui sera littéralement différent par rapport à l'école primaire, puisqu'ici, ils auront différentes matières et devront changer constamment de classe, comme nous l'explique Sandrine Lours, enseignante en anglais, qui est également leur professeur principal.
Il va être très important de leur expliquer le fonctionnement de l'emploi du temps aussi. Ça, c'est très nouveau pour eux. Et ils ont du mal parfois à savoir ce que c'est qu'une semaine A, une semaine B, et à savoir quel matériel prévoir en fonction des matières qu'ils vont avoir le jour suivant.
Je vais vous demander de vous ranger, les 6e A, dans le couloir. Et vous allez me suivre jusqu'au CDI pour aller chercher les manuels scolaires.
Des explications bienvenues qui rassurent les élèves, comme Zakaria.
C'est une nouvelle école et... Quand on était en école primaire, il y avait moins de classes, de places aussi.
Et là, vous allez compléter votre nom, prénom, votre classe.
Après avoir abordé les questions d'ordre général, en plus des groupes de besoins en français et en mathématiques, les élèves vont également découvrir de nouveaux programmes d'anglais à raison de 4 heures par semaine, ce qui n'effraie pas Eden, qui apprécie beaucoup cette langue.
4 heures d'anglais par semaine, ça me dérange pas trop parce que ça permet de s'améliorer. C'est l'une des langues les plus parlées dans le monde. Du coup, si tu veux te repérer dans les autres pays, il faut savoir parler l'anglais.
On met la classe 6e A aussi.
Après les élèves de 6e ce matin, cet après-midi, ça sera au tour de leurs camarades de 5e, 4e et 3e d'effectuer leur rentrée.
Le reportage signé Hakim Kasmi avec Gilles Gallinaro pour les moyens techniques. Pour continuer d'évoquer cette rentrée des classes perturbées, invité à présent de la rédaction, Pierre Perrier, sociologue et professeur en sciences de l'éducation à l'université Rennes 2. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À chaque rentrée scolaire, une question récurrente se pose. Combien de classes n'auront pas de professeurs? Des chiffres circulent comme celui de 5000 postes non pourvus. Seule certitude, ces dernières années, les difficultés à recruter des enseignants en nombre suffisant se sont accumulées jusqu'à faire émerger la question d'une possible crise des vocations. Dans une étude récente, vous soutenez que cette crise actuelle déborde en réalité la seule question du recrutement et engage plus largement les représentations du métier auprès de ceux qui l'exercent ou qui pourraient s'y destiner. Pourquoi est-ce que la focalisation sur le recrutement est insuffisante, selon vous, pour comprendre la crise d'attractivité de l'enseignement ?
Alors, la crise du recrutement, elle est... un enjeu, il est nécessaire de s'y atteler. Donc disons que c'est le problème de l'adéquation entre les effectifs de candidats qui se présentent aux différents concours de l'enseignement et le nombre de postes à pourvoir. Donc la situation s'est dégradée depuis une quinzaine d'années au moins. Et tant dans le premier degré que dans le second degré, ce qui fait que on a diminué par deux. Pour vous donner un ordre de grandeur, hein, on était à peu près à 5 candidats pour un poste dans le premier degré, on est autour de 2 aujourd'hui. On avait 4,5 candidats dans le secondaire, on est autour de 2 également aujourd'hui. Donc c'est une dégradation très très nette qui du coup pose des difficultés pour remplir voilà tout toutes les classes avec des enseignants pose des difficultés aussi pour sélectionner ces enseignants. Donc on voit que ce problème il est majeur, persistant, voire qu'il s'aggrave. Mais il y a une deuxième crise, c'est la crise effectivement d'attractivité qui touche à la représentation que l'on a du métier. Alors cette représentation elle est nourrie d'une préconnaissance. Hein. Tout un chacun a fait l'expérience d'une classe en tant qu'élève ou parfois en tant que professeur. Donc il y a une réalité derrière ces représentations. Et cette réalité, c'est ce qui touche à la condition enseignante, c'est-à-dire à la fois au métier et au statut. Et de ce point de vue,
plus précisément,
il y a une dégradation.
Oui. Quels sont aujourd'hui les critères donc qui susciteraient des réticences à s'engager dans le métier, voire d'ailleurs à en sortir lorsqu'on l'exerce déjà.
Alors, l'un des premiers critères, ça ne va pas vous surprendre, c'est le niveau de salaire. Alors, ce qu'il faut comprendre derrière ce niveau de salaire, c'est qu'il y a au moins trois choses, me semble-t-il. Il y a effectivement le niveau de vie associé à ce niveau de salaire. Donc, objectivement, la situation s'est dégradée. Là aussi, pour donner un ordre d'idée, le salaire enseignant dans le secondaire, c'était 2,2 fois le SMIC au début des années 80, c'est 1,4 aujourd'hui. Donc objectivement, ça se dégrade. Deuxième enjeu autour du salaire, c'est celui de la reconnaissance. D'ailleurs, quelle est la valeur qu'on accorde à ce métier, donc quelle rémunération on lui accorde. Je pense que les enseignants sont sensibles évidemment à cette question. Et le troisième élément qui se cristallise autour du salaire, c'est la question de la position sociale des enseignants dans la société.
Ça, c'est ce qui concerne la rémunération. Il y a d'autres critères, j'imagine.
Oui, mais quand même sur le salaire, juste pour finir, c'est quand même un déclassement et qui est national, mais qui est aussi européen. Hein, c'est-à-dire quand on compare à d'autres pays, on voit que là, c'est une situation très très critique, hein, pour les enseignants. Il y a d'autres critères, effectivement, notamment les conditions d'exercice du métier, la gestion de la classe, l'intérêt des élèves, avec le sentiment que ça va être plus difficile, plus exigeant que ça ne l'était auparavant. Les élèves sont moins acquis, a priori, à l'enseignement qu'on va leur dispenser, enfin, en tous les cas, dans les représentations du métier. Il y a la question aussi, pour ceux qui ont un intérêt pour le métier, la question de l'affectation sur le premier poste, hein, ce que j'appelle le coût d'entrée, qui est quand même très élevé. 5 années d'études, hein, un premier poste qui est souvent éloigné de l'académie, de son choix. Donc tout ça fait que la crise est profonde, structurelle, comme je le dis, multifactorielle. Et donc, évidemment, c'est pas facile non plus de résoudre cette crise à ce stade.
C'est bien compris. Merci Pierre Perrier, sociologue, donc professeur en sciences de l'éducation à l'université Rennes 2, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Loïse Guérin pour la préparation.
À une semaine du vote de confiance, François Bayrou garde toujours l'espoir d'inverser un rapport de force nettement défavorable.
Oui, le Premier ministre recevra à partir d'aujourd'hui les chefs de parti, du moins ceux qui le veulent, puisque la France Insoumise et les écologistes ont, eux, refusé d'honorer cette invitation. Le Parti communiste donnera le coup d'envoi cet après-midi, suivi demain et après-demain par le Rassemblement National et les représentants des formations soutenant la coalition présidentielle. Et puis jeudi, ce sera au tour du Parti Socialiste de clore ses consultations à Matignon. Mais d'ores et déjà, les chances de parvenir à un quelconque compromis semblent réduites à peau de chagrin. D'autant qu'hier, à la télévision, le chef du gouvernement a de nouveau défendu ses choix budgétaires. De quoi probablement ouvrir donc une nouvelle période d'incertitude avec un chef de l'État en première ligne. Le tout dans un contexte social éruptif.
Pour eux, l'affaire est entendue.
Après 62 années de bons et loyaux services, les salariés du site Michelin à Vannes voient leur usine fermer définitivement ses portes aujourd'hui, conséquence d'un bien mal nommé plan de sauvegarde de l'emploi annoncé par le groupe en novembre de l'année dernière. Alors dans les faits, le site breton était déjà à l'arrêt depuis la mi-juillet. En réalité, entre les élus syndicaux et puis la dizaine d'employés qui vont devoir procéder au démontage des machines et à la dépollution du site, l'usine, qui a compté jusqu'à 1500 salariés, n'accueillera plus qu'une quarantaine de personnes. Pour le reste, près de 200 salariés vont donc partir en congé de reclassement durant 12 mois, pendant lesquels ils devront activement rechercher un emploi. Ils sont payés 85% de leur salaire brut. En revanche, ils ne pourront prétendre à un niveau de salaire équivalent que s'ils trouvent en moins d'un an, donc un CDD de 6 mois ou un CDI, une clause ajoutée par la direction et qui inquiète notamment Christophe Villatte du syndicat majoritaire CGT de Michelin. Il explique pourquoi à nos confrères de Ici Armorique.
La problématique, c'est que les salariés vont être la plupart sentir obligés de trouver tout et n'importe quoi, parce que cette part financière de 300 euros auxquels ils auraient pu prétendre, eh ben, ils n'iront pas droit si jamais dans les 12 mois, ils ne trouvent pas un contrat de CDD de 6 mois ou un CDI. Eh ben, malheureusement, c'est soit les salariés, ben, pour avoir cette aide financière, vont trouver tout et n'importe quoi au plus vite, même si ça leur plaît pas et si ça leur convient pas avec leur pathologie. Et puis même d'accepter des emplois qui sont peut-être à 50 km de chez eux, ou peut-être plus. Bon, ils ont des traites à payer comme tout le monde, hein. Ils ont des familles où ils sont tout seuls pour certains. Et malheureusement, bah, cet aspect financier, c'est important pour eux. Derrière, Michelin fera un beau message en disant « Vous avez vu, on a reclassé 80 ou 90% d'effectifs, mais parce qu'ils ont mis un garde-fou comme ça. »
Christophe Villade, donc du syndicat majoritaire CGT de Michelin. On évoquait tout à l'heure la double pression politique et sociale sur le chef du gouvernement et son plan drastique d'économie concentré sur la baisse des dépenses sociales, notamment de santé. Un coup de rabot censé lui permettre de récupérer 5,5 milliards d'euros. Parmi les mesures envisagées, on trouve le doublement du plafond des franchises médicales à 100 euros, une réforme de la prise en charge des affections de longue durée et puis des arrêts maladie, objet de dérive selon le chef du gouvernement. C'est ainsi notamment qu'un demi millier de médecins épinglés par l'assurance maladie car considérés comme trop prescripteurs d'arrêt de travail se retrouvent ciblés depuis ce matin par une mise sous objectif. En clair, ils vont devoir réduire le nombre de jours d'arrêt maladie prescrits. Alors ça n'est pas la première fois que ce dispositif est mis en place. Entre 2023 et 2024, il avait engrangé quelques 160 millions d'euros d'économies de prescription d'indemnités journalières. Reste que cette mesure, Héloïse Weiss, est jugée déshumanisante pour les médecins concernés.
Véronique Musel est médecin généraliste depuis une trentaine d'années dans le Beaujolais. Selon l'assurance maladie, son niveau de prescription est trop élevé par rapport à d'autres médecins issus de la même région à patientèle et territoire d'exercice comparable, des reproches infondés pour la généraliste.
Les gens, on les met en arrêt pour plusieurs raisons, parce que des fois, ils ont des problèmes traumatiques, traumatologiques, fractures, entorses, etc. Donc ça nécessite bien des arrêts, avec des fois des complications, des opérations, des suivis. Il y a aussi des dépressions parce que les gens vont pas bien. Et quand vous voyez des gens en détresse à votre cabinet, vous êtes bien obligé de faire des choses.
D'autant que les calculs de la CNAM sont erronés selon elle.
Ils me reprochent d'avoir mis au total 4365 jours d'arrêt de travail. Et pour eux, je n'aurais que 452 patients actifs. Alors que moi, en reprenant les chiffres des patients pour lesquels je suis médecin traitant, j'ai 1020 patients actifs. Donc les chiffres sont faussés parce qu'ils ne prennent pas l'intégralité de ma patientèle.
Suivi par un médecin de la CNAM, les généralistes ciblés ont 6 mois pour réduire de 20 à 30% le nombre de jours d'arrêt prescrits. Inenvisageable pour Véronique Musel.
Les patients et leur pathologie, on ne peut pas les canaliser. Quelqu'un qui va se présenter avec un cancer et qui devra être arrêté un certain nombre de mois, si mon objectif est déjà réalisé, qu'est-ce que je fais? Je lui dis d'aller voir ailleurs. On est censé soigner les gens tous de la même façon.
C'est pourquoi la généraliste a refusé cette mise sous objectif. Elle s'expose désormais à une procédure de mise sous accord préalable. En clair, c'est le médecin de l'assurance maladie qui pourrait ou non valider ses arrêts de travail prescrits.
Midi passé de 43 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Il pourrait s'agir de l'un des pires séismes enregistrés en Afghanistan depuis que la catastrophe a frappé la nuit dernière l'est du pays. Le bilan ne cesse de s'alourdir. On parle à présent de plus de 800 morts et de 1700 blessés. Alors le pays, à la jonction des plaques eurasiennes et indiennes, est régulièrement secoué, c'est vrai, par les tremblements de terre, sauf que celui-ci survient alors même que près de la moitié de la population vit désormais dans la pauvreté et que par ailleurs, le pays a récemment subi de plein fouet les coupes drastiques dans l'aide humanitaire internationale. Explication signée Nathanaël Charbonnier.
Tout d'abord, le séisme qui a touché les régions de Kunar et de Nangarhar est un séisme de magnitude 6 sur l'échelle de Richter. Alors ce n'est pas un séisme qui est particulièrement spectaculaire, mais il s'est produit dans une région assez peuplée puisqu'on compte plus de 2 millions d'habitants dans les deux provinces touchées. Autre aspect dont il faut tenir compte, c'est le fait qu'on se trouve dans des régions pauvres où les maisons ne répondent à aucune norme parasismique avec une incidence directe, c'est que les habitations s'effondrent comme des châteaux de sable pouvant entraîner de nombreuses victimes. Les responsables des talibans qui communiquent sur la catastrophe ne disent pas autre chose puisqu'ils expliquent que les bilans annoncés sont provisoires et devraient s'alourdir une fois les opérations de recherche terminées. S'ajoute que cela va prendre du temps car la région est très accidentée, avec des villages isolés dans les montagnes qui se trouvent à la frontière avec le Pakistan. Signe que la situation est compliquée et grave, ce sont des centaines de militaires qui se mobilisent et qui chargent des linceuls blancs dans les hélicoptères qui décollent de la capitale régionale, Jalalabad.
Quand l'empire du milieu se rêve en vitrine d'un monde multipolaire, ou plus exactement comme le centre du monde anti-occidental. Ce matin, le président chinois Xi Jinping a ouvert à Tianjin, le plus grand port du nord du pays, un sommet régional en déroulant le tapis rouge à de prestigieux invités, parmi lesquels certains des autocrates les plus célèbres de la planète, au premier rang desquels les présidents russes, indiens et iraniens, soit en réalité chacun des acteurs principaux des multiples crises actuelles, guerre en Ukraine, guerre commerciale et querelle nucléaire. Mais bien entendu, dans ce monde fracturé, tout l'enjeu pour le dirigeant de la deuxième puissance économique de la planète sera avant tout de se présenter justement comme un pôle de stabilité. Les précisions de notre correspondant Sébastien Berriot.
La photo de famille est une vraie réussite diplomatique pour Xi Jinping. Le leader chinois entouré ce matin à Tianjin d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, de Vladimir Poutine au président iranien, en passant par le premier ministre indien et les chefs d'État de la quasi-totalité des pays d'Asie centrale. Un groupe qui représente près de la moitié de la population mondiale et 23% du PIB de la planète. De quoi offrir à Xi Jinping une légitimité pour défendre son principe de nouvel ordre mondial. Les États-Unis ne sont jamais cités, mais c'est clairement l'hégémonie américaine et occidentale qui est visée dans le discours du président chinois.
Il faut s'opposer à la mentalité de guerre froide, à la confrontation entre blocs et aux pratiques d'intimidation, plaider en faveur d'un monde multipolaire, égalitaire, et promouvoir la mise en place d'un système de gouvernance mondiale plus juste, plus équitable.
Un système qui donnerait davantage de place et de pouvoir à ce qu'on appelle ici les pays du Sud global, avec à leur tête une Chine qui ne cache pas ses ambitions de prendre le leadership de ce nouvel ensemble, au risque de transformer l'hégémonie américaine tant décriée par Pékin en une autre domination, cette fois chinoise.
L'espoir brisé d'une fin possible de la guerre, une torture peut-être pire encore que la famine. Malgré les pressions de toutes parts, Israël continue d'intensifier ses raids sur la bande de Gaza. L'étau de l'armée se resserre autour de la cité éponyme, ou du moins ce qu'il en reste, et contre laquelle l'armée s'apprête à lancer une offensive d'envergure. Preuve que décidément partout, les Palestiniens fuient le mal, la mort les suit. Un véritable nettoyage ethnique en terre oubliée, cette fois-ci au Soudan. La guerre de pouvoir entre le chef de l'armée et son ancien adjoint a fait des dizaines de milliers de morts, déraciné des millions de personnes et provoqué ce que l'ONU décrit comme la pire crise humanitaire au monde. Ce week-end, des frappes aériennes sur une ville assiégée par les paramilitaires du Darfour ont fait au moins 19 morts et des dizaines de blessés.
C'est un nouveau coup d'arrêt aux politiques anti-migratoires de Donald Trump.
Oui, en plein week-end, un juge a in extremis bloqué le rapatriement de 600 mineurs isolés qui s'apprêtaient à être rapatriés dans leur pays, en l'occurrence le Guatemala. Un nouveau revers donc pour le président américain, sa politique draconienne contre l'immigration. C'est une correspondance signée Isabelle Labéry.
La scène se déroule au petit matin sur le tarmac de l'aéroport d'Arlington au Texas, plaque tournante des vols d'expulsion. Ceinture attachée, 10 mineurs originaires du Guatemala s'apprêtent à décoller quand la nouvelle tombe, on arrête tout. Ils ont entre 10 et 17 ans, ont traversé seuls la frontière mexicaine pour entrer aux États-Unis et l'administration Trump compte bien les renvoyer sans préavis vers leur point de départ. Mais à Washington, la juge fédérale en charge du dossier est prévenue par les avocats. Elle décide, par ordonnance, de tout geler. La procédure interdit en effet d'expulser des mineurs isolés qui n'ont pas passé au moins 2 semaines sur le sol américain. C'est un temps qui leur permet de déposer une demande d'asile ou de bénéficier d'une aide à l'immigration. Les renvoyer trop tôt est une décision illégale qui les met en danger. Plusieurs enfants ont dit avoir été maltraités ou menacés dans leur pays d'origine. Tous ont réintégré les centres de réfugiés en attendant une nouvelle audience le 10 septembre. Le gouvernement a prévu d'expulser près de 700 enfants guatémaltèques arrivés seuls aux États-Unis, mais d'autres actions en justice similaires pourraient ralentir ces projets.
Résidences de politiciens pillées et bâtiments publics incendiés en Indonésie. Le mouvement de contestation contre les nouveaux avantages financiers accordés aux députés a connu ce week-end sa flambée de colère la plus spectaculaire. Aujourd'hui encore, des milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs villes de l'archipel et l'armée a été déployée dans la capitale Jakarta. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi instable sur la majeure partie du pays, en particulier le long des côtes atlantiques ainsi qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur. 7 départements du sud Est sont toujours placés en vigilance orange aux orages. Quant aux températures, elles afficheront entre 17 et 30 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet à 18h. Vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.